La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit
pas. C'est maintenant Guillaume qui va nous lire le texte avant la prédication.
Bonjour à tous. Alors, je vous invite à prendre votre Bible ou tout équivalent utilitaire dans le livre de Tite. Tite, chapitre 2, du verset 11 à 15. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé par les œuvres bonnes. Ainsi dois-tu parler, exhorter et reprendre avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen.
Eh bien, avant de vous laisser avec notre prédicateur de ce matin, j'aimerais vous le présenter en deux mots. Olivier, maire et pasteur, bien sûr, mais il est également secrétaire général de la Fédération France Nord. Et je lui remercie d'ailleurs d'avoir répondu à notre demande pour ce matin. Sa méditation portera sur la mission d'Église. Je laisse la place à Olivier.
Merci pour l'invitation, justement. Plaisir de partager ce temps avec vous. Je commencerai par vous transmettre les salutations de la part de l'équipe de la Fédération, en particulier le pasteur Gabriel Goléa, qui est le président de cette même fédération. Régulièrement, il me dit « Tu vas où ce sabbat ?» Dans quel plaisir que je te retrouve ce matin. Si je dis des bêtises, tu viendras me voir à la fin. Tu me diras « Tu as dit telle ou telle bêtise ?» Imaginez que vous êtes dans une pièce avec quelques animateurs d'un camp qui a eu lieu il y a de cela quelques années. Il est à peu près minuit et demi et il y a un débat, un sujet de discussion au point que certains des animateurs en viennent à pleurer. Oui Pascal, ça arrive. Mais tu bouges tes oreilles un petit peu. Nous étions deux directeurs cette année-là, avec un collègue du sud de la France, au Moulin de l'Hérolle. Et le sujet, l'objet du débat, était un des jeunes du camp, un des participants. Il s'appelait William. Il avait 10 ans. Et nous étions sur le point de décider de le renvoyer du camp. Heureusement, c'est une mesure très rare, n'est-ce pas, Pascal ? Rassure-toi. Mais nous en étions arrivés à cela, à nous poser sérieusement la question de savoir si, parce qu'on n'arrivait plus à gérer ce jeune, et d'ailleurs depuis le début on n'avait pas réussi à le gérer, qu'est-ce qu'on faisait de lui ? On appelait la grand-mère, parce que c'est sa grand-mère qui en avait la charge. Et disant, bah écoutez, on n'arrive plus à gérer le petit-fils, il faut revenir, on ne peut plus. Comme elle habitait à une trentaine de kilomètres, c'était la solution qui nous avait paru, ou qui paraissait à ce moment-là la plus simple. Et je me souviens d'une animatrice qui a, avec les yeux en pleurs, qui a dit, mais personne ne peut l'aimer ce jeune, donc autant s'en débarrasser. Et quand vous êtes directeur et que dans l'équipe il y a une bonne ambiance comme ça, vous vous dites, ça va être sympa la suite du camp quand même. Et vous posez la question de savoir, mais quel intérêt, quelle motivation un animateur a à être animateur quand il vient dans un camp, dans un séjour, accueil de mineurs, et de dire, d'être capable de dire, mais de toute façon personne ne peut l'aimer ce jeune. Et finalement, on a fait durer un petit peu la réunion, on a décidé de garder ce jeune William. Il était infernal au point que tous les autres jeunes vivaient un mauvais camp. Et c'était ça qui avait fait presque pencher la balance, parce que tant qu'il est pénible avec les animateurs, ils sont là pour ça, on va dire, c'est pas très grave. Mais quand ça en vient à envenimer l'ensemble du séjour et que les autres jeunes espère qu'une chose, c'est qu'ils s'en aillent ou qu'eux rentrent à la maison. On a un problème grave. Mais il y avait un contexte qui faisait que ce jeune avait ce comportement. Le contexte est le suivant. Sa maman était une femme, alors, comme il y a des enfants qui écoutent dans la salle, je vais employer un mot qu'ils ne comprendront pas, une péripapéticienne. Comme ça, ils n'auront pas compris, une femme qui vit de ses charmes, comme on dit. Son papa n'a jamais voulu reconnaître son enfant. Et à l'âge de 2 ans, sa maman s'en est débarrassée et l'a confié à une assistante sociale. Et c'est sa grand-mère qui, faisait option de père, de mère, de grand-mère, et qui essayait de gérer cet enfant, ce fameux William dont personne ne voulait. Il a fait partie des enfants que nous avons eus en tant que directeur, le plus souvent dans le bureau du directeur. Parce que, généralement, ça se passait pas bien, et donc, quand les animateurs n'arrivent pas à gérer, l'enfant atterrit directement dans le bureau du directeur. Et on a discuté de longues heures avec lui. Parfois, il voulait rien dire, il voulait rien entendre. Mais parfois, on arrivait à discuter avec lui. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce William. Jamais eu l'occasion de le revoir. Mais je sais qu'il a participé au même camp l'année suivante. Heureusement, j'étais plus directeur cette année-là. C'était un collègue, Jean-Guy Prel, qui dirigeait ce séjour-là. Et forcément, on a eu l'occasion de discuter du fameux William, parce qu'il est devenu quelqu'un avec une réputation intéressante. Mais en échangeant avec mon collègue, on s'est rendu compte qu'il y avait une évolution. Il y avait juste une année d'écart entre le William qui avait 10 ans et le William qui avait 11 ans. Mais son comportement s'était déjà amélioré. Et le premier camp qu'il avait vécu, même si ça avait été un peu l'enfer pour tout le monde, et on a fait durer l'enfer jusqu'au bout, avait eu semé quelques fruits, quelques petits éléments, quelques changements dans son existence. Dans la Bible, il y a d'autres William. Et je voudrais ce matin partager quelques éléments autour d'un homme qui avait comme nom Jephté. C'est une histoire qui est relativement connue. On la trouve au chapitre 11 du livre des Juges. C'est aussi une histoire qui fait qu'on a envie de se débarrasser de quelque chose qui est dans la Bible et dont on ne voudrait pas. Et pourtant, elle est là. Elle est bien là, cette histoire. Alors, Jephté, on nous dit qu'il était un vaillant guerrier, un héros. Et lui aussi avait une situation familiale particulière parce qu'il s'est retrouvé être fils, lui aussi, d'une femme comme William. Au point qu'à un moment, les enfants légitimes de son père, qui s'appelait Galaad, ont décidé de se débarrasser de lui. Parce que ça faisait mauvais genre dans la famille d'avoir quelqu'un qui est fils d'une femme comme ça, qui n'était pas la... née de la même mère, du même papa, mais pas de la même mère. Et alors ses frères, un jour, en ont eu assez et ont dit « Bon, toi, il n'y a pas de raison que tu hérites du patrimoine, donc on va te mettre dehors. » Le texte ne nous dit pas quel âge avait Jephté à ce moment-là, mais il se retrouve abandonné, seul, pris au dépourvu probablement, et il se met à vivre dans la région de Tob, nous dit le texte. Mais quoi faire? Alors il va faire ce qui était dans ses mesures, dans ses capacités. Il va se mettre à voler les gens, parce qu'il faut bien vivre. Lui qui a été exclu, abandonné, qui n'avait plus sa mère, qui n'avait plus son père non plus, s'est retrouvé tout seul. Et comme c'était quelqu'un de vaillant, d'intéressant, eh bien, il a fini par être chef de gang, une troupe de malfrats, de voleurs, un bandit de grand chemin, comme on dit. Mais à l'époque, ça faisait 18 ans qu'Israël était en guerre contre les Ammonites. Et vous savez ce que c'est. Au début, on fait appel à l'armée, à ceux qui sont officiellement mandatés pour cela, pour combattre. Et puis après, on voit si éventuellement il reste encore des hommes un peu quand même si bon, ils sont encore dans la force de l'âge, comme on dit. Et puis à un moment où on trouve des solutions. Et les anciens de Galaad, donc les dirigeants de Galaad, se réunissent en disant « Mais qu'est-ce qu'on va faire ? » Alors, il ne faut pas confondre Galaad, le père de Jephté, et Galaad, le territoire, hein, la ville. Au bout de 18 ans, on se pose la question « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Oui, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que les Ammonites sont là toujours à nous faire la guerre. Et il y en a un qui dit « Mais les gars, il y a ce Jephté-là, il pourrait peut-être faire office d'eux. » On ne pourrait pas aller chercher ce bandit de grand chemin. Comme on dit, royaume des aveugles, les borgnes deviennent les chefs. Et c'est comme ça que Jephté est sollicité. Et on lui dit, ah, est-ce que tu ne voudrais pas être notre chef et partir en guerre contre les Ammonites ? Et probablement, il y avait dans ces anciens de Galaad, ses propres frères ou demi-frères. Parce qu'il leur dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'avant vous me détestiez et maintenant c'est vous qui venez me solliciter. C'est un problème. Et Jephté va accepter cette mission d'aller combattre. Et il fait preuve dans un premier temps d'une certaine sagesse, me semble-t-il, parce qu'il va dire au roi des Ammonites, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire autrement que la guerre ? Vu que ça fait 300 ans qu'Israël est ici, on va dire que le territoire est acquis, une certaine légitimité à être là, tu ne veux pas rester dans ton coin et nous on reste dans le nôtre. C'est relativement sage comme démarche d'éviter la guerre. Et puis là il va se passer quelque chose, je vous invite à prendre le texte pour en parler, donc Juges chapitre 11. Et on va lire si vous voulez bien, verset 29. Parce que le roi des Ammonites refuse d'entendre Jephté et continue à faire la guerre. Et le verset 29 de ce chapitre 11 du livre des Juges nous dit ceci. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephté qui traversa Galaad et Manassé. Il passa à Mitzpah de Galaad et de Mitzpah de Galaad, il passa jusque chez les Ammonites. Jephté fit un vœu à l'Éternel et dit « Si tu livres totalement entre mes mains les Ammonites, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. » C'est là que les choses se gâtent. Jephté fait un vœu à Dieu. Il dit, mais la première personne que je vais croiser en rentrant de la guerre, parce que tu m'auras donné la victoire, je vais te la consacrer. Holocauste, un sacrifice. Et il se trouve que si on lit la suite du texte, la première personne qu'il va croiser, qu'il va rencontrer, c'est sa propre fille. Et le texte précise, si on avance un tout petit peu, au verset 34, c'était son unique enfant, à part cela, il n'avait ni fils, ni fille. Et elle, elle va dire à son père, ben voilà, puisque tu as fait un vœu, ben, jusqu'au bout, laisse-moi juste deux mois de répit, de délai, pour que je puisse faire le deuil de ma virginité et du fait que je ne me marierai jamais. Et ensuite, tu accompliras ce que tu as prévu de faire. Ce texte nous heurte, nous pose problème. Il y en a d'autres dans la Bible, hein, sur la violence, etc. Mais ce texte nous heurte au plus haut point. Parce que justement, le verset 29 commence en disant « L'Esprit de l'Éternel, ou l'Esprit du Seigneur, ou le souffle de Dieu, était sur ou avec Jephté. » Et ce texte nous pose d'autant plus de problèmes que, apparemment, personne ne réagit. Et Dieu ne réagit pas non plus, ce qui est encore le pire. Parce que, avec les 2 mois de délai négociés entre Jephté et sa propre fille, pour qu'elle puisse faire le deuil de sa virginité, ce que je disais tout à l'heure, il y avait quand même moyen qu'il y ait des gens dans Galaad, en Israël, qui viennent dire à Jephté, t'es sûr que t'es obligé d'accomplir ton vœu ? Tu veux pas revenir un peu en arrière, là ? C'est ta propre fille, quand même. Tu vas pas consacrer en holocauste ta propre fille. Alors, ça veut dire on brûle la victime, pour être clair. Tu vas pas la consacrer à Dieu, ton propre enfant, ta propre chair. Et Dieu lui-même, il pouvait pas intervenir. Quand Dieu dit à Abraham, va, tu prends ton unique. Tiens, qui vient, hypertexte. Prends ton unique, ton fils. Et puis va sur le mont que je t'indiquerai pour l'offrir lui aussi en sacrifice. Dieu intervient au dernier moment, alors qu'Abraham a le couteau en main, il est prêt à tuer son enfant. Dieu intervient, mais là, ce n'est pas le cas. Et le verset 39 dit bien, « Au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. » Comment on s'en sort avec un texte pareil, point de vue même de nos tripes? Comment est-ce que l'Esprit du Seigneur peut avoir accompagné un tel homme? Faire des choses aussi horribles. Ah, il a gagné la guerre, alors ça c'était génial. Quand il est rentré, il a eu tous les honneurs, c'est devenu le chef. On lui a peut-être donné une belle médaille, etc. Mais au-delà de ça, Seigneur, comment est-ce que tu peux tolérer, supporter des choses pareilles? Et en ton nom? Ah oui, j'ai fait un vœu. Si Dieu me donne la victoire, la première personne que je rencontre, je la massacre pour toi. Forcément, ça nous pose un certain nombre de soucis d'un point de vue éthique, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue... Comment est-ce que Dieu peut laisser faire ça? Personne n'a réagi et Jephté a accompli son vœu. Je vais tenter de vous donner une piste de réponse à ces questions. Jephté, son nom signifie « il libérera », sous-entendu « Dieu libérera » ou « il ouvrira ». Quelque part, c'est déjà porteur de choses positives. Sa maman ou son papa lui ont donné un nom intéressant. Il libérera. Comme si, éthiquement ou symboliquement, il devait accomplir quelque chose de fort dans sa vie. Ce Jephté, probablement, ne connaissait pas bien Dieu. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas du donnant-donnant. Ce n'est pas « si tu fais ça, je ferai ça ». Avec Dieu, c'est le don, et c'est Dieu tout seul qui donne. C'est la grâce, c'est l'amour, c'est le partage. Dieu est celui qui ouvre, qui... Ça, c'est Dieu. Et on n'est pas en train de négocier avec lui en disant « mais si tu fais ça, alors je ferai ceci ». Comme Jacob avait fait avant de vraiment rencontrer Dieu, en disant « bon, écoute, voilà, si tu fais ça, je te donnerai la dîme ». D'accord ? On n'est pas dans un temps d'échange, de deal, de négociation avec Dieu. Dieu donne. Et c'est probablement ça qui est intéressant, c'est que le texte souligne que le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu a été donné à Jephté avant qu'il négocie avec Dieu, et pas après. S'il l'avait fait après, Dieu aurait donné son esprit après que Jephté ait fait ce deal avec lui. On aurait pu dire, ok, il y a déjà ce que l'être humain propose et Dieu va donner après derrière. Eh bien non. Dieu donne son souffle, son esprit, avant que notre ami Jephté fasse son vœu, la négociation avec Dieu, son deal. Un peu comme Dieu le fait pour nous tous. Dieu donne son esprit à chacun de nous, son souffle, parce que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu généreux, un Dieu qui donne, qui fait grâce. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce souffle, de cet esprit, de ce don, de cette grâce qui nous est faite, qui nous sont faits? Est-ce qu'on n'est pas parfois un petit peu comme Jephté, à dire « oui, bah, bon », et puis on s'engage dans des choses qu'on ne tient pas. On fait des vœux qui sont pas... Quelque part, Jephté est ici le reflet de notre humanité, de nous tous, de moi. Parce que Dieu, dans son amour, nous donne, nous fait grâce. Et à cause du péché, nous sommes en rébellion vis-à-vis de Dieu. Alors, ce don, ce cadeau que Dieu nous fait, eh bien, on ne le considère pas toujours à sa juste valeur, tel qu'il est vraiment. Et pourtant, Dieu donne. Et il donne tellement qu'il va faire que Jephté va remporter la victoire sur ses ennemis. Jephté revient donc, il est tout heureux. Et sa fille va être, quelque part, une sorte de témoin, un révélateur, quelqu'un qui va donner à son père du temps. Du temps pour se positionner autrement, pour changer. Comme Dieu le fait avec nous. On se laisse du temps. T'es pas sur la bonne voie, t'es pas en train d'emprunter le chemin que je voudrais. Je t'ai donné mon souffle, je t'ai donné mon esprit, mais c'est pas encore ça, mais je te laisse du temps. Dans mon amour, dans ma grâce et ma patience, je te laisse du temps. Est-ce que tu peux rectifier le tir, changer un peu le chemin que tu empruntes? Jephté, lui, a eu 2 mois pour modifier son vœu. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 2 mois? Est-ce qu'il s'est glorifié de sa victoire sur les Ammonites? Est-ce qu'il a su entrer en lui-même, réfléchir à son engagement, à ses paroles prononcées peut-être à la va-vite? Est-ce qu'il estimait que voilà, ça serait un petit chien ou un chat qui passe, qu'il verrait en premier en rentrant de la guerre, et que cet animal servirait pour le sacrifice? Je ne crois pas, il se doutait bien qu'il y aurait quelqu'un, un être vivant qui viendrait en face de lui pour le féliciter de cette victoire remportée. Jephté n'a pas su entrer en lui-même, analyser son comportement, analyser ses paroles d'engagement vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres. Et pourtant, c'est sa propre fille qui est en jeu ici. Et le texte, comme on l'a lu tout à l'heure, d'une manière presque macabre, insiste sur le fait que c'est son unique enfant. C'était suffisant de dire que c'était son unique enfant. Il n'y avait pas besoin d'ajouter. À part cela, il n'avait ni fils ni fille. Comme pour un peu, le couteau dans la plaie, on y va les gars, ça doit faire mal. Jephté n'a pas su faire preuve de repentance. Pas su revenir en arrière. Et sa fille, elle est un peu comme Jésus-Christ, parce que je ne sais pas, à sa place... Moi, je serais parti dans la montagne et je serais parti loin dans la montagne. Je ne serais pas revenu voir papa, vas-y, je suis prête. Ou je suis prêt. Je serais resté dans la montagne. Elle revient. Un peu comme le Christ qui a dit, voilà, on ne m'ôte pas la vie. Je suis venu pour offrir ma vie. Alors on peut faire des liens parce que on nous dit qu'elle est vierge, comme le Christ était vierge de tout péché, qu'elle est unique et Jésus était unique, qu'elle va sur la montagne. La montagne dans la Bible, c'est le lieu symbolique et par excellence où on rencontre Dieu, où on est en contact avec Dieu. Et quelque part, elle offre sa vie, elle vient se sacrifier elle-même pour une mauvaise cause. Enfin, c'est pour Dieu, c'est une bonne cause quand c'est pour Dieu, mais pour une mauvaise raison. Comme le Christ a su, avec chacun de nous, pour chacun de nous, offrir sa vie sur la croix. Elle est symboliquement, ou d'un point de vue, je ne sais pas, prototype quelque part, ou type, Jésus-Christ qui meurt sur la croix, en holocauste, en sacrifice. Jephté n'a pas su faire preuve de repentance. Parce que pourtant, Dieu est le Dieu de la réversibilité. Dieu d'un retour en arrière. Le Dieu qui permet, justement, au magnétoscope de la vie, alors ça parle plus beaucoup cette image, hein, au DVD de la vie ou au streaming de la vie. Eh oui, on se fait vieux, hein, n'est-ce pas? De rien, de revenir en arrière. Alors il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Il y en a, on ne peut pas les réparer. Jephté, sa fille, une fois qu'elle est morte, elle est morte. Mais avec Dieu, il y a possibilité de revenir en arrière. Il y a possibilité de faire introspection, de rentrer en soi-même, dire mais où j'en suis avec le Seigneur? Est-ce que mes paroles, mes actes par extension, sont le reflet de ce qu'il souhaite? Parce qu'on trouve dans la Bible des textes comme Deutéronome 18, où Dieu dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Il n'y avait pas de sacrifice d'être humain, et encore moins d'enfants en Israël. Il n'y aurait pas dû y en avoir. Et alors on pourrait dire, ben voilà, c'est tranquille, Jephté il n'est plus là, il a eu ce qu'il méritait, un peu comme le jeune William qu'on a failli renvoyer du camp. Il n'est plus là, c'est pas très grave. Il a tué sa fille, il n'y avait qu'à réfléchir un petit peu. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que dans le chapitre 11 des Hébreux, on retrouve notre homme qui est mentionné au verset 32. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, mais le chapitre 11 des Hébreux, c'est le chapitre par excellence de ceux qui ont marché avec Dieu, qui ont parcouru leur existence la main dans la main avec le Seigneur. Alors, il est question d'Abraham, Jacob, etc. Question de la foi aussi, de la confiance, de la relation à Dieu. Et au verset 32, l'auteur de cette épître, par manque de temps, dit « Que dirais-je encore ? Le temps me manquerait si je devais passer en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephté, David, Samuel et les prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, etc. etc. » Ah, Jephté est là. Ça veut dire que le Jephté qu'on a quitté dans Juge 11, après avoir tué sa fille, il n'en est pas resté là. Il a repris un cheminement avec le Seigneur, véritable cette fois-ci, qui a permis qu'il soit considéré comme quelqu'un qui sera sauvé, qui est sauvé. Jeune William, dans l'équipe, on a fini par le considérer comme quelqu'un qui pouvait être sauvé. C'est pour ça qu'on a décidé de le garder jusqu'au bout. Alors ces quelques jours, c'est insignifiant peut-être, mais pour l'équipe d'animation, pour les autres jeunes, c'était quelque chose qui était dur à vivre, mais qui était beau à faire. La mission de l'Église, puisque c'est de ça dont j'ai promis de parler, elle est résumée dans le texte que Guillaume Rodet a lu tout à l'heure. Tite, au chapitre 2. Et en quelques phrases, en quelques mots, l'apôtre Paul a été capable d'exprimer finalement à la fois les intentions de Dieu et en même temps la mission de chacun de nous en tant qu'Église. Verset 11, chapitre 2 de Tite, est écrit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les êtres humains, a été manifestée. » Le souffle de Dieu a été donné, même si les êtres humains ne le méritent pas, surtout parce qu'ils ne le méritent pas. Parce que quand on regarde autour de nous, on a plutôt envie de vomir qu'autre chose. Et puis si on est un peu honnête avec soi-même, parfois on a envie de vomir avec ce qu'on trouve en nous-mêmes. Parce que je ne viens pas prêcher juste pour vous, je prêche aussi pour moi. Comment dans certaines circonstances particulières un être humain peut se transformer en monstre ? Je me rappelle de certains cours avec Philippe où on a longuement essayé de comprendre ces questions. Entre la normalité et l'anormalité. Le fait qu'on puisse un jour réagir anormalement. La grâce de Dieu, le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu a été manifesté. Dieu a donné sans compter. Alors qu'on ne le méritait pas. C'est ça le message de l'Évangile. Jephté a été au compte de Dieu qui lui a dit « Je te donne mon souffle, je te donne ma grâce, tu peux aller, va combattre. » La grâce de Dieu, source de salut pour tous les êtres humains, a été manifestée en Jésus. Et quand on essaye de comprendre un petit peu ce que ça a pu impliquer pour Dieu lui-même, en Jésus, et la dimension qui est la nôtre, à l'échelle de l'univers, on parle maintenant même de multivers, Dieu aurait pu nous laisser tranquilles dans notre coin. Hein. On n'est quand même pas grand-chose. À l'échelle du pays, on n'est pas grand-chose, la France. Encore moins de l'Europe et encore moins de la Terre. Petite fourmi. On a du mal à imaginer la taille de notre univers. Pour essayer de comprendre un petit peu, la lumière voyage à pratiquement 300 000 km par seconde. Ça aussi, on a du mal à l'intégrer quand même. Ce serait pratique de pouvoir voyager aussi vite, hein, 300 000 km par seconde. Ça veut dire 7 fois et demi le tour de la Terre en une seconde. Pour aller voir la famille aux Antilles, ça serait bien. Hein. Avant, on parlait de quelques années-lumière pour rejoindre telle ou telle étoile. Aujourd'hui, on parle de plus de 7500 années-lumière. Ça veut dire le temps que la lumière naît en une année à 300 000 km par seconde. Ça veut dire que notre petite planète bleue, elle est rien du tout. Et nous, sur cette planète, on est encore moins. Et pourtant, Dieu s'intéresse à chacun de nous parce que sa grâce a été manifestée pour tous les êtres humains. Ce truc-là, ça dépasse l'entendement. Et on a beau réfléchir, y penser, cogiter, essayer de comprendre, on n'y arrive pas. L'amour que Dieu porte à chacun de nous. Mais pas juste nous, les gentils, dans l'Église. Il y a les méchants aussi à l'extérieur. Et justement, la mission de l'Église, elle est définie ici. Alors, cette grâce, elle nous enseigne, verset 12, à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vont pas en nous au départ, et que Dieu veut transformer. Ça, c'est l'Évangile. Nous changer. Transformer nos pensées, nos caractères, faire que quand je suis une jeune animatrice de 20 ans, ce que je peux comprendre, et qui dit « Ah oui, mais ce jeune, on ne peut pas l'aimer, il faut le dégager », puisse apprendre à aimer celui qui n'est pas aimable. Pas dans le sens de poli, hein, mais pas possible d'aimer. C'est ça l'Évangile. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le texte dit « dans le siècle présent ». pas juste dans le club des gentils adventistes. C'est vrai, c'est sympa, on s'aime bien, enfin quand ça se passe bien, parce que je peux vous donner quelques noms d'églises où c'est pas toujours super bien. Hein. Ah oui, parce que quand on est à la Fédération, encore plus à l'Union, on en apprend. Hein. Il y a son lot quotidien de problèmes dans les églises, on est content. Mais globalement, on est quand même mieux ici en interne qu'avec des gens de l'extérieur. Pourtant, le texte dit « dans le siècle présent ». Contact des autres. Après, c'est le verset 13, il est dédicacé à l'école du sabbat, de ce que nous avons partagé, échangé ce matin, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Nous sommes tous invités à être comme la fille de Jephté. De ceux qui permettent, alors là c'était pour son père, mais étendons autour de nous, aux autres, de bénéficier de la grâce de Dieu, de l'Esprit de l'Éternel, de son souffle. C'est la mission de l'Église, pour préparer un peuple pour le retour du Christ. Cette mission, elle passe par nous tous, pas juste par les anciens, ou les pasteurs, ou l'équipe de la Fédé ou de l'Union. C'est la mission de toute l'Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, enseigné, donné. Mission de l'Église. Ça passe parfois, cette mission, et je dis parfois, vous verrez que ce n'est pas le bon terme, par le fait de se sacrifier. Alors, pas dans le sens d'aller voir papa pour qu'il nous brûle, mais d'accepter que ça coûte en temps, en énergie, en argent aussi parfois. Un peu comme le figuier que Jésus voit en sortant du temple et à qui il reproche de ne pas porter des fruits. Et le texte précise, c'est pas la saison des fruits. Et Jésus semble s'énerver en disant « Bon, ben, puisqu'il n'y a pas de fruits, je te maudis. » Et le lendemain, les disciples repassent par là avec le Christ. Le figuier, il a cramé. Il n'y a plus de figuier. On dit « Mais comment Jésus peut reprocher au figuier de ne pas porter des fruits puisque ce n'est pas la saison pour porter des fruits ?» Il faut être logique quand même. Mais c'est parce qu'il y a deux types d'amour. Il y a l'amour naturel et il y a l'amour surnaturel. L'amour naturel, ben l'autre il a un beau visage, il est sympa, il rigole, tout de suite on s'entend bien et voilà, les atomes crochus direct. Et puis il y a l'amour surnaturel qui est, j'ai pas envie d'aimer le petit William là, il m'énerve de trop, j'ai plutôt envie de le prendre et de le taper contre un mur. Rassure-toi Pascal, on le fait pas. Hein. Tu as vu le dernier rapport, Jeunesse et Sport, ils étaient contents cet été, tout va bien. Mais des fois c'est ça. Dans l'église, j'ai parfois envie que le frère ou la sœur soit plus là. Restez poli. Et c'est cet amour-là qui n'est pas en nous que Dieu souhaite développer en chacun. Et ça, ça sera le plus fort des témoignages que l'église pourra rendre. C'est à l'amour que vous vous portez les uns aux autres qu'ils viendront à moi. Que Dieu nous aide à faire que même si on n'a pas envie de porter des fruits, même si l'autre nous embête, même si ce n'est pas le moment quand il vient demander un service, bien que nous puissions, parce que ce n'est pas la saison, que nous puissions être capables d'accomplir la mission, pas juste pour accomplir la mission, mais parce que Dieu nous donne de ressentir l'amour qu'il a lui-même pour l'autre, pour les autres. Et que quand bien même on s'est trompé, parce que ça arrive, comme Jephté. Et lui, il s'est lourdement trompé parce que on peut imaginer le reste de son existence, ses pensées devaient être tournées vers sa fille tous les jours. Parce que c'était sa fille. Même si on s'est trompé. Être en mesure d'intégrer la réversibilité de Dieu. Le fait qu'il revienne en arrière, qu'il ouvre une nouvelle page toute blanche. Et qu'on puisse écrire ensemble. En son honneur, pour sa gloire. Pour accomplir la mission que le Christ a confiée à son Église. Consiste à préparer un peuple pour son second avènement. Amen.